Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Littérature. Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Jean-Christophe Briançon, Étienne de Montetti et Florent Georgesco pour parler ensemble de Une complication, une calamité, un amour de Véronique Bizot chez Actes Sud, Le voyage du canapé-lit de Pierre Jourde chez Gallimard, Vie conjugale de Bernard Quirini chez Rivage. Il y aura un coup de cœur de Florent Georgesco pour Comment j'ai tué son père de Martin Hirsch chez Stock. Nous ouvrons cette dispute avec Une complication, une calamité, un amour. Bon, c'est un seul livre, ce titre de Véronique Bizot, le roman, publié chez Actes Sud. Moi, c'est grâce à cette émission que j'ai découvert il y a un an seulement Véronique Bizot. Moi, je suis tombé sous le charme de cette écriture faussement simple. Pour rappel, à l'époque, Lucille Como parlait d'une écriture extrêmement sophistiquée, très recherchée, une syntaxe ourlée, qui exige un niveau de lecture assez élevé. Philippe Chevillé, lui, était emporté par le style et la forme, tandis que Grégoire Le Ménager parlait d'un ton et d'une forme d'humour indéniable. Il faut faire des rappels des épisodes précédents. Elle est experte du format court de la nouvelle. Elle signe aussi des romans. Cette fois-ci, Véronique Bizot se livre à l'exercice de l'entre-deux avec une novella. C'est-à-dire que les anglo-saxons désignent ce qui serait une longue nouvelle ou un court roman. Le talent n'a pas besoin de s'étaler. On va en discuter autour de cette table. Mais avant de débattre de ce livre, un premier tour de table. Cette phrase qui va résumer le sentiment que vous allez développer sur ce livre, Jean-Christophe Briançon.
Moi, je parlerais d'une expérience littéraire schizophrène.
Intrigant, on a envie de vous écouter, comme c'est bien fait.
Je le souhaite.
Étienne de Montetti.
Moi, je parlerai d'une plongée dans un livre qui fait 80 pages, mais pour lequel il faut prendre le temps qu'on pourrait prendre à lire un livre de 300 ou 400 pages.
Et enfin, Florent Georgesco.
Écoutez, j'ai cru entrer dans un univers étrange, intrigant, très séduisant. Ça a duré 4 pages. Voilà.
Vous développerez dans
j'ai
un instant.
J'ai dû arrêter de m'enthousiasmer.
Après cette lecture de Véronique Bizot, ce soir, lecture faite par Alexandre Fougeron.
Il y avait bien eu ce corps dans la salle de bain, mais, avait affirmé la personne de l'agence immobilière, un maquillage impitoyable lui donnait des airs de Liz Taylor dans ses pires périodes, pas une goutte de sang ne s'était répandue sur le carrelage. Le mort portant un cachemire triple fil, le sang, avait-elle affirmé, avait été absorbé par le lainage, plus efficace qu'une serpillière, c'est-à-dire qu'il s'était coagulé dans les plus brefs délais. Néanmoins, tout avait été lessivé et naturellement désinfecté. Les joints du carrelage, ainsi qu'on pouvait le constater, étaient comme neufs. Pour tout dire, le plus dur avait été de sortir le corps de cette salle de bain, un corps lourd, des os massifs offrant peu de prise. Mais enfin sorti, il l'était manifestement, avait-elle souri. Manifestement, avait dit Brémard. Bien entendu, elle ne pouvait empêcher les locataires potentiels de se représenter l'événement, ni de réclamer toutes sortes de précisions sur le meurtre. Précision qu'elle se trouvait d'autant plus à même de fournir qu'elle avait elle-même découvert le corps.
C'est le tout début de ce livre de Véronique Bizot qu'on vient d'entendre, mais pour autant, Jean-Christophe Briançon, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce point de départ narratif?
C'est assez compliqué parce que les points de départ...
C'est pour ça que je vous ai réservé cette douceur.
C'est charmant, quoi, que vous me faites confiance et ça m'honore. Parce que
les c'est pas nous départ, qui aurions su faire ça.
C'est ce que j'en déduis. En tout cas, les points de départ et d'accroche sont assez nombreux, complexes, et c'est ce qui fait justement le charme de ce livre. Mais bon, si on veut simplifier les choses quand même, on rentre dans ce livre par le biais d'un corps retrouvé mort dans une maison à l'occasion de la visite de cette maison par celui qui veut la racheter à la suite la relouer à la suite donc de la mort de ce propriétaire, puisque le corps s'avère être celui du propriétaire.
C'est
Non, c'était locataire précédent.
Locataire,
vous avez,
oui,
du, vous avez envie d'acheter un appartement en ce moment, comment ça se passe?
Location. Non, j'aimerais bien, mais bon. Donc c'est l'occasion de rentrer dans un monde assez, voilà, assez brumeux, puisqu'on va découvrir ce corps et rentrer dans cette maison à travers les yeux du narrateur, qui est un personnage qui sera à la fois très présent et en même temps absent, puisqu'on n'aura rien d'autre que son récit, mais il ne participera pas lui-même à l'histoire. Il est une personne échappée d'un hôpital psychiatrique qui était dans le village dans lequel se trouve cette maison. Ça va donc être à la fois une forme de récit d'aventure, une forme de récit d'espionnage, puisque petit à petit, on va se rendre compte qu'en fait, ce corps n'a pas été, a été tué d'une manière
le
particulière.
Le point de départ narratif.
Donc, voilà, c'est tout un monde qui s'ouvre à nous à la suite de la découverte de ce corps.
Et pour autant, Étienne de Montetti, on va parler quand même de la façon dont ce livre est écrit, avant que Laurent Georges qu'on sorte ses armes habituelles. Qu'est-ce qu'on peut dire du style de Véronique Bizot ?
Mais c'est un style qui est extrêmement serré, très dense. Lucille Comeau l'a dit pour un précédent livre, et c'est vrai, c'est certainement sa marque. Ça rend d'ailleurs le livre difficile à raconter, parce qu'il est constitué de comme un mécanisme complexe d'une multitude de petites pièces qui s'agencent les unes avec les autres, où chaque mot semble nécessaire pour faire évoluer cette histoire, qui demande une attention extrêmement grande pour bien comprendre qui est qui fait quoi. Et puis, très vite, effectivement, dès les premières pages, on s'aperçoit que le narrateur sort d'un asile, donc il est quand même question de psychiatrie. Et pendant tout le livre, évidemment, la question est de savoir si ce style sobre, distant, un peu énigmatique, eh bien, est-ce que c'est le style qu'utilise l'auteur pour poser les questions de la véracité du récit de ce narrateur, sa véracité, sa crédibilité. Et c'est pour ça, grâce à ce moyen, qu'elle installe une atmosphère assez particulière, un peu froide, un peu distante, qui distille le doute et parfois l'absurde et parfois même des scènes assez drôles.
Alors, Florent Georgesco, 4 pages, hein, vous avez tenu. Alors, je regarde la 5e. Hein. Monsieur Blanc avait dit Brémard, et donc à partir de là. C'est pour vous,
c'était le mot de trop.
C'était le mot de trop. Non, qu'est-ce qui fait que vous y avez cru et qu'est-ce qui fait alors
page 8.
Qu'est-ce qui fait que finalement ça n'a pas.
En fait, je vais sauter plutôt à la dernière page. Je ne vais rien révéler, mais la fin est magnifique. Voilà, je tiens à le dire.
Bon, on s'arrête là pour Florent Georgesco.
Et elle ne fait donc pour moi que souligner l'échec de ce qu'elle aurait dû l'impossibilité d'incarner de développer et de rendre aussi puissant qu'on aurait pu rétrospectivement l'espérer la trace que porte la fin
vous avez du mal hein, aujourd'hui avec
c'est très
ce
difficile
livre.
De saisir un livre qui annonce seulement à la fin un projet passionnant.
Et c'est fait partie de son grand intérêt.
Parce que je ne peux pas dire.
Du coup, vous allez le relire.
Il ouvre. Non, justement, je vois très bien comment elle a essayé d'amener. Et d'ailleurs, Étienne l'a esquissé, d'amener à cette fin. Elle est passée par des chemins qui sont qui utilisent des mécanismes que je trouve assez pauvres, assez peu mobile, alors qu'il y a à la fin une perspective, une ligne de fuite extrême, radicale, que rien ne porte aussi radicalement dans le texte. Au fond, elle construit ça autour d'un enchâssement de situations de personnages, de plans, que Jean-Christophe a très bien résumé d'ailleurs, qui ne crée pas d'étincelles entre eux. Tout se passe comme si il fallait en arriver à telle et telle scène au nom d'une histoire qu'elle était faite pour faire exploser et qui n'explose jamais dans le livre.
Alors je ne vous suis en rien, hein. Vous avez bien compris, Florent Georgesco. Je vous interromps pour que vous puissiez reparler évidemment après, hein, pas pour je vous ai fait un petit signe, parce qu'il me semble, moi je serais plutôt de l'avis d'Étienne de Montetti, que dans ces 75 pages, il y en a bien 300, parce qu'il y a même une échappée, et cette échappée elle dit beaucoup, hein, d'un des personnages principaux, raconté par donc cette... se rejeter de l'asile psychiatrique. Enfin, il ne s'est pas échappé. Hein. L'asile psychiatrique ferme. Il reste que quatre patients et on les laisse dans la nature avec leur dose de médicaments et qui se débrouillent. Les trois autres partent à la montagne.
Et lui reste. Et il traîne derrière les rideaux des maisons.
C'est une position de voyeur intéressante. Un des personnages principaux va partir pendant deux semaines et son voyage va nous être raconté par celui qui ne bouge pas. Et là, évidemment, on se pose une multitude de questions. Mais rien que ce voyage est en lui-même, il y a un véritable roman, parce qu'on est tout à fait dans d'autres paysages, dans notre atmosphère. Il y a des contrées extrêmement venteuses, pluvieuses, une vieille dame très étonnante, une sublime beauté qui est sa fille ou sa petite fille. Une fille adoptée, enfin bon. Tout d'un coup, il y a un autre roman qui s'ouvre, et moi je trouve ça assez passionnant, comme dans les apartés du narrateur sur ses anciens camarades, le boucher, le notaire, l'interprète. Il y a plein de trouées qui, moi, m'ont à chaque fois passionné, et ça ne me fait pas perdre non plus le fil du roman. Jean-Christophe Briançon, qui va pouvoir développer maintenant son point de vue.
Je suis assez d'accord, et pour moi, c'est l'avantage et à la fois l'inconvénient de ce livre. C'est que, effectivement, en l'espace de quelques lignes, quelques mots, quelques pages tout au plus, l'auteur nous emmène dans des contrées très différentes de pages précédentes. C'est vraiment remarquable de maîtrise formelle, de construction. Il y a quand même quelque chose c'est très cortiqué, c'est très complexe, quoi. Effectivement, c'est peut-être des trois livres dont on parle ce soir celui que j'ai eu personnellement le plus de mal et de complexité à lire. J'ai trouvé ça difficile, non seulement parce que intelligent et très bien imbriqué. Je trouve que c'est très bien fait. Voilà, il y a une maîtrise formelle qui est remarquable. Et bon, alors il y a effectivement aussi s'ajoute à ça une maîtrise stylistique, puisque bon, il faut effectivement maîtriser la langue pour pouvoir nous emmener comme ça, nous embarquer d'une page à l'autre. Mais malgré tout, j'ai trouvé que la langue se trouvait effroyablement en décalage avec la triste réalité de ces gens-là, qui quand même sont habités d'une forme de tristesse et de nihilisme ontologique qui les amène donc à vivre ces vies qui sont assez énigmatiques, tous, et l'énigme, d'ailleurs le mystère qui les entoure, est lui-même partie des avantages, des atouts de ce livre. Mais voilà, le décalage entre la froideur de cette langue, on a quasiment l'impression que l'auteur n'aime pas les mots, le décalage entre cette froideur et la tristesse qui habite ces personnages, la belle tristesse mystérieuse de ces personnages, m'a un petit peu dérangé. J'irai pas jusqu'à dire que ça n'a pas de style, puisque c'est un style en soi d'écrire comme ça, mais c'est dérangeant.
Mais c'est moi, c'est peut-être cette tristesse ontologique qui au fond me lasse assez vite. Je disais quatre pages parce que c'est précisément le compte pour arriver page 8 si on enlève les blanches du début.
Après quatre pages donc. Parce que j'ai été à la page 9 puisque je vous avais écouté attentivement, Florent.
Vous m'écoutez trop attentivement, Arnaud. Elle fait dire un moment à ce moment-là, page 8, à son narrateur. Je lis juste la fin de les quelques mots de la fin de ce paragraphe. À me demander, il se demande donc de quoi nous sommes donc tous inconsolables. Il y a là tout à coup une irruption de la volonté de l'auteur, une irruption des intentions qui, à partir de là, sincèrement, ne disparaît jamais vraiment pour moi. Et Jean-Christophe parlait aussi de vous avez beaucoup employé le mot maîtrise. On sent cette volonté justement tout petit peu laborieuse d'installer ce qu'elle a à l'esprit, qui est
laborieuse.
De l'ordre. Oui, laborieuse. Laborieuse parce que la construction du livre n'est pas très efficace, en réalité pas très prenante.
Moi j'étais pris d'un bout à l'autre.
On finit par avoir une très longue scène vers la fin du livre qui explique ce qui s'est passé, le meurtre qui s'est passé au début. Tout est déjà éventé et elle appuie là-dessus comme si elle révélait quelque chose à travers ça, alors que c'est répétitif et arriver à être répétitif dans un texte aussi court est assez embêtant. Moi je m'ennuie un peu à ce moment-là.
Étienne de Montetti.
Je vais essayer de réconcilier deux avis. La maîtrise formelle est évidente, elle est assez séduisante. Il est vrai que l'auteur reste un petit peu à l'extérieur de son récit, fait preuve d'une grande maîtrise et qui est très très intéressante, même assez remarquable. On peut pas dire que ce soit un livre, par exemple, qui ait beaucoup de charme. C'est vrai que j'ai suivi cette histoire, je me suis beaucoup intéressé, j'étais un peu fasciné par les personnages, tout en cherchant leur chair, il manquait quelque chose, et tout se déroule, et moi j'ai marché dans tout ça, j'ai admiré les prouesses, j'ai admiré les exercices, même les morceaux de bravoure, c'est vrai, stylistique, et en refermant, il y avait cette impression d'avoir assisté à quelque chose de qui m'avait beaucoup plu, mais est-ce que je me suis attaché au personnage? J'en suis pas tout à fait sûr, et la part humaine, tout à l'heure Jean-Christophe Briançon parlait peut-être du décalage des mots avec les personnages, c'est peut-être un peu ça, ils parlent pas forcément suffisamment avec leur cœur, mais évidemment comme le narrateur est quelqu'un qui est un fou, ou quelqu'un qui a des problèmes psychiatriques, je me suis demandé si tout ça ne venait pas de là. Mais la question du charme de ce récit m'est quand même restée.
Je vous suis, Étienne, et moi je me demande pas, je pense en effet, évidemment qu'ils n'ont pas de chair, puisqu'ils sont racontés par ce narrateur-là, c'est tout à fait logique, cohérent, le projet me semble parfaitement abouti. Il n'est pas question d'insérer du charme dans le récit fait par cette personne-là.
On peut pas en dire beaucoup plus. Toujours espérer être charmé par un livre.
Mais moi, je suis charmé.
Oui.
Au sens du charme dont vous parliez à l'instant.
Je ne le suis pas.
Charmé, intrigué. Et moi, tout à fait.
Simplement, le narrateur est un fou. Mais à quoi ça sert d'être fou si c'est pour déboucher sur une vision aussi tenue des choses? Parce qu'en réalité, c'est pour ça que vraiment, moi, j'ai éprouvé une déception par rapport à la promesse et une déception rétrospective à la fin. Parce que entre les deux, il ne se passe rien d'autre que, pour moi, plutôt des intentions très claires, une manière très claire de vouloir raconter une certaine vision de la condition humaine qui est celle de l'auteur, qui n'est pas celle de ce fou, qui paraît beaucoup plus amusant. J'aimerais beaucoup plus le rencontrer que je n'ai aimé rencontrer cet auteur-là.
Jean-Christophe Briançon, pour finir sur les deux derniers bisous.
Justement, oui, il ne s'agit pas seulement de la vision d'un fou, il s'agit de la vision d'un fou inconsolable. Et c'est peut-être ça qui... c'est lui-même qui le dit. Hein. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Mais alors voilà, justement, ce fou étant inconsolable et ce livre étant si froid d'une certaine manière, finalement tout ce qui reste une fois qu'on a terminé la lecture de cet ouvrage, c'est la posture de l'auteur, c'est Véronique Bizot qui reste là.
Voilà, en fait, nous sommes parfaitement d'accord.
Oui, je suis pas sûr que vous fassiez un compliment à la réussite de ce livre.
Mais moi si, c'est ce que j'aime.
C'est même compliment que le mien en tout cas.
Mais pour moi c'est réellement un compliment. C'est à la fin de ce livre, j'ai affaire à un auteur qui a un univers qui m'intrigue, dont je ne comprends quasiment pas le projet. J'ai beaucoup aimé ce livre, mais je n'ai pas réellement compris son désir de nous l'écrire. Et je trouve ça fascinant. J'ai qu'une seule envie, c'est qu'elle en réécrive un autre.
Bon. Continuez une minute de plus.
Non.
Et vous serez plus cruel que moi.
Mais non,
pas du tout. Bah, j'entends très bien et de façon très positive ce que me dit Jean-Christophe Briançon. Non, je suis pas bon. En l'occurrence, ce livre m'a plu à maints égards, comme j'ai tenté de l'expliquer. Une complication, une calamité, un amour, rien que le titre déjà. C'est un livre de Véronique Bizot, publié chez Actes Sud. Nous allons débattre encore autour de Pierre Journe, de Bernard Guérini, et Florent Georgesco fera parler son cœur à propos d'un livre de Martin Hirsch.
Vous verrez, c'est beau mon cœur.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute consacrée à la littérature, pour parler à présent du nouveau livre de Pierre Journe, Le voyage du canapé-lit chez Gallimard. Et là, j'ai confié à Étienne Montetti la tâche de nous faire un bref portrait de Pierre Journe, situé dans le paysage.
Oui, Journe est un personnage des lettres françaises. Un personnage au sens où il occupe une place à la fois du savant, parce qu'il a pu faire des livres comme la géographie imaginaire, qui était une somme d'essais sur un certain nombre d'auteurs comme Borges, Gracq ou Michaud. Et puis cet écrivain qui sait se montrer érudit, même universitaire. Une autre part de lui, c'est le boxeur. Je crois qu'il d'ailleurs il exerce ce sport. Il en a du moins le physique. Et puis il s'est singularisé, peut-être fait connaître du plus grand public par des pamphlets. Le premier s'appelait La littérature sans estomac. Et puis un autre co-signé avec Éric Nolot, c'était Petit déjeuner chez Tyranny, où il réglait des comptes avec des auteurs à succès ou avec une certaine critique littéraire parisienne.
dans certains journaux du soir.
Dans un journal paraissant le soir depuis quelques années. C'est un peu un éléphant dans un magasin de porcelaine, c'est-à-dire que on sent qu'il y a une part de lui qui aime bien secouer, qui aime bien déranger. Ça d'ailleurs le rattrape parce qu'il a publié un roman qui s'appelait Pays perdu, et où les villageois du village qu'il décrivait se sont sentis visés, et il en a donc fait, il a donc été l'objet d'un scandale et presque d'une vendetta.
D'un caillassage en règle.
Caillassage.
Oui, il s'est fait menacer, attaqué physiquement.
Voilà, à cause de ce roman. Donc, c'est un personnage qui, je pense, ne laisse jamais indifférent.
On va voir ce que vous pensez de ce nouveau livre, Le voyage du canapé-lit. Et d'abord, dans un premier temps, ce rapide tour de table pour résumer cette impression. Jean-Christophe Briançon.
C'est un livre qui fonctionne comme une lessiveuse. Et le lecteur serait un peu le linge de cette lessiveuse. On en sort lavé, mais étourdi, quoi.
Florent Georgesco.
Ce livre prouve que la littérature n'aurait jamais été inventée si les gens n'aimaient pas se raconter des histoires dans des camionnettes.
Étienne de Montetti.
Oui, c'est un livre qui se présente comme un déménagement et qui serait plutôt un réaménagement en réalité.
Un extrait du Voyage du canapé-lit de Pierre Jour, publié chez Gallimard, lu par Aïssa Toundoy.
Nous aimions ne pas aimer nos grands-parents. Plus tard, mon goût du paradoxe moral me ferait me dire qu'après tout, les généreux achètent l'estime des autres. Les radins pathologiques, comme mes grands-parents, se contentent de garder les sous. C'est de l'égoïsme aussi, mais plus franc. Ils autorisent les autres à les mépriser. C'est une forme de don, d'autant plus désintéressé, que personne ne s'en rend compte. Le paradoxe est séduisant, je ne suis pas sûre qu'il soit tout à fait juste. Ma grand-mère avait une santé en acier suédois. Lorsqu'elle s'est décidée à trépasser, j'ai espéré que c'en serait fini de la salle à manger art déco, des chiottes bleues, de la négresse, du berger allemand hochant la tête et du salon. J'ai cru que c'en serait fini des visites du dimanche. Mes grands-parents, mais aussi tous les gens de ma famille, à commencer par ma mère, étaient des fanatiques de l'objet. Ils collaient dans tous les coins de navrants machins à vocation décorative, dans le genre du buste de négresse, et du berger allemand à tête oscillante. Le geste de piété de ma mère, recueillant le salon abandonné, anéantit mes espoirs. Jamais ce n'en serait fini de l'ennui, du vide, de l'abandon. Ils s'étaient matérialisés dans le bois et le tissu du canapé, ils avaient corps et substance, ils revenaient me narguer. Car c'est à mon frère, et à moi, que ma mère avait décidé de confier le sort du salon. Il s'agissait d'un canapé-lit, recouvert d'une espèce de velours olive orné de fleurettes, avec des accoudoirs de bois clair, les fauteuils assortis. On ne lui échapperait plus. Il faudrait s'asseoir dedans, jusqu'à la consommation des siècles.
Le voyage du canapé-lit. Alors, vous voyez, cher Jean-Christophe Blanchon, c'est à Florent Georgesco que j'ai confié la tâche de nous dire de quoi parle ce livre de Pierre Livre, de Pierre Joudre. De quoi parle ce livre? Alors, on pourrait dire du voyage du canapé-lit. Ou alors, on peut faire la liste, et là, ça prendra deux jours.
L'extrait a bien donné le point de départ. Le point de départ, c'est qu'il a eu le malheur d'avoir une grand-mère, que cette grand-mère a eu le bonheur d'avoir un canapé-lit, que lui, il a eu le bonheur de voir mourir sa grand-mère. Résultat, il se retrouve dans une camionnette avec son frère, et la femme de son frère, Martine, pour transporter le fameux canapé-lit du Val-de-Marne. Il n'y a pas un suspense dingue sur la destination.
Quand on connaît Pierre
Jourde, à la maison de famille que les Jourdes ont en Auvergne. Le livre suit les méandres de ce voyage et surtout de la conversation qui se noue dans la camionnette. La camionnette Jumper, soyons toujours précis, qui est une conversation familiale, un peu par définition, mais où en réalité, Jourde et les trois protagonistes s'amusent à tout mêler, des souvenirs justement familiaux, des souvenirs notamment de leur jeunesse à son frère et lui, qui sont souvent assez picaresques, disons, des blagues, beaucoup de blagues, beaucoup de blagues de mauvais goût, il faut y insister parce qu'il y insiste lui-même beaucoup, mais aussi des souvenirs littéraires. On peut dire peut-être que par exemple, Christine Angot, tout à coup, fait une apparition dans ce livre avec un gobelet Robledo à la main. On n'en dira pas plus.
Non.
Mais voilà, c'est un livre de conversation. C'est un livre qui essaie de, qui recherche, qui est fondé sur le plaisir de la conversation, sur la littérature comme une sorte de conversation infinie.
Et ça vous a lessivé, Jean-Christophe Briançon?
Ah, c'est lessivant parce que c'est brillant et que faut suivre Pierre Jourde, faut le suivre au fil de sa pensée, de sa parole, parce que c'est d'ailleurs intéressant d'en parler juste après Véronique Bizot, parce que c'est un petit peu oui. L'antithèse. C'est vraiment le l'antithèse pas qualitative, je tiens à le dire encore, mais en tout cas l'antithèse en termes de rapport à la langue, rapport au langage et rapport à la littérature d'une manière générale, parce que là on sent que vraiment c'est un auteur. J'ai pu dire tout à l'heure de Véronique Bizot, dont je doutais qu'elle aimait les mots qu'elle utilisait. Là, on sent que non seulement il les aime, mais il en a besoin. Alors, il en utilise beaucoup et il nous parle constamment. Il nous parle à nous, à son frère, à sa belle-sœur, à tout le monde. Donc, c'est assez compliqué de le suivre, d'autant plus compliqué que, sous couvert de petites blagues, l'auteur est quand même très érudit. Donc, d'une page à l'autre, on peut passer effectivement d'une blague scato à un propos assez profond, métaphysique sur les raisons d'être au monde. Et ça switch comme ça, tout le temps, tout le temps. Donc effectivement, moi j'en sors lessivé parce que je me sens moins vif que lui, certainement.
Étienne de Montetti.
Oui, c'est vrai, c'est l'exact opposé de ce que nous proposait Véronique Bizot. C'est-à-dire, c'est un livre qui sollicite du lecteur une constante attention, un peu comme un battleur ou comme un bonimenteur qui veut en permanence attirer, fasciner son auditoire. Alors il le fait avec une authentique maestria. Il assume d'ailleurs, au moment même où on se fait une remarque sur son texte, oui, il l'exprime lui-même. Il assume être trivial et savant. Il assume se recommander de Rabelais et de Grac. Oui, il y a une forme de...
Mais il en joue.
Il y a une forme de ruse.
Il sait qu'on n'est pas dupe du fait qu'on trouve malin, etc.
Il en joue jamais.
Il est bien tranquille.
Il y a un authentique brio, c'est vrai. Au moment où on a envie de s'en aller parce qu'on est un peu lassé par le propos, ben comme le bonimenteur sur le marché, il nous rattrape par le col en nous racontant une autre histoire. Et finalement, à la fin du livre, ça donne une espèce de passage en revue de tous les registres de la conversation. C'est assez étonnant. Il y a quelque chose d'un exercice de style où on sera passé par tous les registres. Et même dans le vocabulaire, du plus trivial à tout d'un coup des mots savants, ça donne quelque chose d'assez insolite, d'assez inclassable. On se demande si on avait vraiment envie de faire ce voyage avec Jourde. Et puis la
on préfère le lire que le faire peut-être.
La fin m'a paru plus apaisée sur la question de sa position chez les écrivains, sa position dans ce milieu littéraire, l'autodérision dont il fait preuve m'a davantage intéressé peut-être que la traversée de Nevers ou de la Charité.
C'est parce que vous n'aimez pas Marguerite Duras, ça c'est notre problème, ça.
Mais évidemment, quand il passe à Nevers, on se dit on va avoir droit à Hiroshima, et on a droit à Hiroshima.
Oui, mais ça c'est une vieille aversion chez vous, Étienne. Mais on vous aime quand même.
Ça laisse un sentiment un peu mitigé, de mal de mer, dont on ne sait pas si c'est la conduite du jumper ou si c'est l'incroyable virtuosité de Jourde qui la provoque chez nous.
Mais apaisé, c'est vrai, mais ça correspond quand même aussi au changement, je dirais, lent mais certain de la place de Pierre Jourde dans le paysage, quand vous avez dressé ce portrait tout à l'heure.
Oui, c'est
alors
vrai.
Il se rappelle à notre bon souvenir de mauvais garçon.
Oui, avec quelques taloches bien envoyées.
Mais en
au
même
passage.
Temps, il a, et c'est heureux parce que c'est un écrivain que j'admire aussi beaucoup, avec un immense talent en tant que tel d'écrivain, et qui l'a. Quand on voit ce que son comparse est devenu. non, mais c'est vrai. Voilà, Pierre Jourde, moi, c'est vraiment toujours un bonheur que de recevoir ses livres et de se dire dans quoi est-ce qu'il va nous embarquer,
donc,
à ce plaisir-là.
Il a des capacités incroyables, bien sûr. Ouais.
Changement de registre encore, Florent Jourdesco.
Et d'ailleurs, je peux attaquer là-dessus parce que je n'ai pas pu ne pas penser, par contraste à son précédent livre, Winter is Coming, qui était.
Dont nous avons parlé également ici.
Qui était un livre. Tragique, terrible, assez intenable pour moi, sur la mort de son fils, très jeune, de maladie. Au fond, c'est une sorte de double inversé, ce livre-là, un livre
qui est sur un mode mineur. D'ailleurs, je ne pense pas que ça doive être considéré comme un de ses livres les plus importants. Mais justement, il ne vient peut-être pas tout à fait par hasard après ce livre terriblement éprouvant qu'était Winter is Coming. Ces deux livres sont déclenchés par une mort qui n'ont strictement aucun rapport entre elles, ces deux morts. Et tout à coup, la mort naturel d'abord, un grand âge, et plutôt qui est plutôt un soulagement dans cette famille de cette grand-mère acariâtre, déclenche un goût du mineur, du mode mineur chez Jourde. Il fait une sorte de petit livre qui lui permet de dire beaucoup de choses sur lui-même, et je crois peut-être d'abord sur la littérature, dans sa forme, dans cette manière justement de faire de la littérature de conversation, de renouer avec, comme la Violaine Morin, la critique qui a fait un article dans le Monde des Livres sur ce livre, parler de Jacques le Fataliste, ce qui me paraît c'est assez juste pour certains aspects du livre, pour cette manière de vouloir nouer et dénouer les choses au gré du caprice qui caractérise là le mode mineur, alors que dans Winter is Coming, au contraire, tout était parfaitement tendu sur une seule ligne, toujours prête à rompre tellement elle était tendue. Là, c'est déjà rompu, c'est déjà souple et tout va dans tous les sens. Et ce caprice, ce sens du caprice, du plaisir, de la langue, on sent le c'est parfois même, je peux le dire, un peu balourd dans la recherche de l'effet, dans la recherche du tour de force, de la petite prouesse. Il y a les grandes pages sur l'odeur de jasmin dans les toilettes de la grand-mère.
Il
en fait énormément avec
ça. Mais ça fait partie du plaisir.
On lui octroie ce plaisir. C'est vraiment une sorte d'écrivain capricieux qui s'amuse avec la littérature et qui, s'amusant à la littérature, nous rappelle que la littérature est amusement, nous rappelle qu'elle est aussi cette manière de délier les choses et d'aller au hasard. Et il va au hasard de manière très savoureuse la plupart du temps.
Les moments, il va jusqu'à San Antonio. C'est tout à fait inouï, notamment avec un tic que je vais avoir du mal à expliquer de manière brève. C'est quand il dit, au lieu de dire « réponds mon frère », il va dire « enfonce le clou mon frère ». Et il le fait de très très nombreuses fois avec des mots les plus inattendus. Il me semble que c'était un procédé de Frédéric Dard, même si j'ai pas lu Antonio depuis fort longtemps.
Et c'est un procédé, si je puis dire, involontaire de beaucoup d'auteurs dont il s'est moqué, notamment dans Le Jour des Enolo.
Ah oui.
Donc il y a aussi un aspect parodique des mauvais auteurs là-dedans.
Voilà. Mais qui donne évidemment une verve à tout ça, une sorte d'efficacité dans la jactance qui est assez savoureuse.
Et vous avez dit jactance.
Ah oui, il y a de la jactance.
Ça contamine. Ça contamine.
Il y a de la jactance.
Jean-Christophe Briançon,
je suis juste pas tout à fait sûr qu'il s'agisse d'un récit sur le mode mineur, dans le sens où moi je vois ici, et c'est peut-être après la lecture de son précédent livre aussi qui me fait projeter sur lui cette image-là, mais je vois dans ce livre et dans cette légèreté la forme d'extra-lucidité qui est celle des hommes, ou des hommes avec un grand H, dépressifs, qui eux-mêmes se pense toujours extra lucide. Là, pour moi, c'est exactement cette lucidité-là et ce rapport-là au monde. C'est le rapport et c'est le panache d'un homme qui se veut extra lucide, pas pour rien, parce que fondamentalement, il a connu le malheur.
Jean-Georges Esco, encore un mot.
Je peux être d'accord. Le mode mineur, c'est aussi qu'il y a à boire et à manger, si je puis dire, dans ce livre, et que tout n'est pas fait pour intéresser tout le monde. Moi, je dois dire, j'ai beaucoup d'admiration pour Jourde. Il a écrit quelques grands livres. Souvenons-nous du Maréchal absolu, roman qui est passé trop inaperçu, qui est un très grand roman qu'il avait écrit il y a une dizaine d'années. Enfin, bref, il y a de grandes choses chez lui. Là, même moi, très admirateur, je dois dire, moi, les histoires de famille, dès qu'il y a deux noms, il y a père, grand-père, arrière-grand-père dans un paragraphe, je suis lâché. Donc ça m'ennuie un peu, même chez lui. Et je crois que c'est fait aussi pour ça. Il donne de tout, chacun peut prendre ce qu'il veut. C'est mineur en cela. C'est un livre qui n'a pas besoin d'être égal, qui n'a pas besoin d'être totalement réussi. Et c'est parfois dans la littérature un charme. Parce que pour le coup, on est plongé dans le charme jusqu'au cou.
Pour terminer, Étienne de Montetier.
Non.
Ah pardon, je croyais que vous vouliez encore la parole.
Pas du tout. Bah. Je commentais en hochant la tête. J'écoutais en hochant la tête les commentaires de Florent Georges.
Commentiez en vous-même. Voilà. Ces propos qui concernaient le voyage du Canapelli, c'est ce nouveau livre de Pierre Jourde qui vient de paraître aux éditions Gallimard. c'est l'heure du coup de cœur de Florent Georgesco pour « Comment j'ai tué son père » de Martin Hirsch chez Stock.
Oui, Martin Hirsch qui n'est pas un écrivain. C'est peut-être une des choses intéressantes dans ce livre. Martin Hirsch, je le rappelle, est ancien, il a dirigé Emmaüs longtemps. Il a été commissaire, pas ministre, mais auprès de Nicolas Sarkozy, il a créé le RSA. Il est aujourd'hui directeur de la PHP, des hôpitaux de Paris. Bref, c'est un énarque, un haut fonctionnaire, si vous voulez, qui se mêle tout à coup du débat littéraire, et c'est assez intéressant en soi, dans la démarche même, mais c'est plus intéressant encore quand on voit le résultat, parce que, je résume en deux mots, c'est une réponse à Édouard Louis, dont le dernier roman, que nous avions commenté d'ailleurs ici même, s'intitulait Comment j'ai tué... voilà, ça y est, j'ai un trou.
C'est quoi le titre?
C'est quoi le titre alors, exact?
Ils ont tué mon père.
Oui, oui, c'est amusant comme il a marqué ma mémoire. Bref, le dernier roman d'Édouard Louis, nos texte. Auditeurs vont s'en souvenir.
Ouais. Bah parce que ça, le titre de Hirsch reprend...
Oui, le titre est tellement proche.
C'est une démarque de celui d'Édouard Louis. Bon.
Bon, le dernier en tout cas.
Le dernier, donc, tout le monde voit.
Qui explique comment
il parlait,
ils ont tué son père.
Exactement, il parlait de son père. Et il finissait notamment par une très longue tirade où il accusait des hommes politiques d'avoir créé une situation.
Qui a tué mon père, me souffle Alexandre Fougeron dans l'oreille.
Qui a tué mon père, oui, tout simplement.
Donc il nommait...
Ce titre était, en fait, sortait de cette partie du livre vers la fin où Édouard Louis accusait nommément des hommes politiques d'avoir créé la situation sociale qui avait entraîné son père dans la misère, dans la maladie, dans la blessure professionnelle. Et il accusait notamment Martin Hirsch en tant que créateur du RSA, Édouard Louis disant « Le RSA est un système qui a forcé mon père, bien que malade, bien que blessé, à travailler sous peine de perdre toute ressource. » Martin Hirsch raconte qu'il entend ça un matin à la radio et qu'il découvre donc qu'il est un assassin. Il écrit à Édouard Louis une lettre très longue qu'il reproduit ici. Il n'a pas de réponse, donc il écrit ce livre qu'il tourne en forme de fable. Il imagine toute une fable où il serait chargé par Édouard Louis d'aller tuer réellement son père, etc. Peu importe, là, c'est pas d'un intérêt littéraire très grand. Mais ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est un révélateur d'une sorte de situation. Je trouve qu'il y a en ce moment, on est rentré à nouveau dans une sorte de période de lyrisme politique où beaucoup d'écrivains, de plus en plus d'écrivains français sont de plus en plus véhéments, de plus en plus définitifs, ont un discours sur la société où il y a de moins en moins de complexité. Et ce qui m'intéresse beaucoup de voir dans un livre comme celui-là, c'est que là on a un type qui a, peu importe ce qu'on on peut évaluer ça, les résultats de sa politique comme on veut, mais qui a tenté de faire quelque chose pour s'occuper réellement de la situation des gens. Il rappelle de quoi il s'agit dans le RSA. Au passage, il rappelle que la situation que décrit Édouard Louis ne correspond à aucune réalité administrative, que ce que décrit Édouard Louis ne correspond à rien de ce que lui, le créateur du RSA, connaît, ce qui quand même pose un petit problème dans le rapport au réel de ce livre d'Édouard Louis, qui ne se prétendait pas à cet égard un roman, mais un livre rapportant une réalité. Mais au-delà de ça, au-delà de cette sorte de correction qu'apporte Martin Hirsch, me fascine le fait que ce soit cet énarque, auteur de plutôt de rapports que de livres en général, en tout cas qui entre dans une forme de littérature pour la première fois, que ce soit lui qui rappelle le sens du réel, le sens de la complexité, qui donne une leçon de complexité à un écrivain qui a tellement simplifié le réel et qui se sert tellement de la littérature qu'au fond, à mon avis, il avait raté à l'époque à la fois son objet politique et son livre en tant qu'œuvre. Même si je reconnais du talent, et d'ailleurs je me souviens que dans cette émission, j'avais plutôt défendu la force littéraire de certaines pages de ce livre. Mais quand le tract vient dans la littérature, il est sidérant de voir que quelqu'un, un homme de dossier, a beaucoup plus de finesse à apporter dans le regard sur les choses, sur la vie des gens, qu'un écrivain. Il y a cette sorte de puérilité lyrique en ce moment de la politique dans la littérature française. Je trouve que ça fait beaucoup de bien de l'entendre moquer et balayer en réalité d'un revers de la main par un homme comme Martin Hirsch.
Martin Hirsch qui vient donc de publier il y a quelques semaines déjà « Comment j'ai tué son père », c'est publié chez Stock.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Le dernier livre au sommaire de cette émission, c'est « Vie conjugale » de Bernard Querini, chez Rivage. Bernard Querini, c'est un auteur auquel nous sommes fidèles dans la dispute. Nous avons parlé de ses quatre précédents livres. Le dernier, c'était un roman, « L'affaire Meyerling ». Laurent Nunez, en lisant cette émission, c'est un livre qui fonctionne par étonnement. On ne sait jamais à quoi s'attendre à la page suivante. Et on referme le livre très heureux, très joyeux. Grégoire Le Ménager, lui, trouvait qu'il y avait un problème de rythme, qu'il trouvait que ça un peu ennuyé sur la longueur. Et Florent Georgesco, si vous n'en vous souvenez pas, vous disiez qu'il renouait là, Bernard Querini, avec une vieille tradition de romans de promenade et de bavardage, en y mettant toute sa puissance imaginative.
Ça fait jour.
Pardon ?
Comme chez Journe. Quelle unité, c'est
même. Alors, pour aller vite, pour dire que là, c'est de nouveau un recueil de nouvelles dont on va parler, ce petit tour de chauffe que l'on fait désormais. Étienne de Montetti, résumez votre sentiment à développer plus tard.
Oui, bah, Querini, depuis plusieurs livres, et notamment dans celui-ci, c'est un disciple de Marcel Aimé, égaré dans la France d'aujourd'hui.
Jean-Christophe Briançon.
C'est une expérience de lecture qui s'apparente à une mise en suspension du réel, de notre quotidien.
Et enfin, Florent Georgesco.
Je pense que Querini devrait créer un monde parallèle, comme il aime, dans lequel on passerait nos journées à lire des nouvelles de Querini. J'accepte d'en être un personnage.
Bon, alors écoutons l'une de ces nouvelles. On a pris la plus courte, forcément, pour la faire entendre en entier. C'est Boris Pinault qui nous la lit.
À la terrasse d'un café, j'ai surpris l'autre jour une conversation entre deux messieurs, l'un blond, l'autre roux, qui se rencontraient pour la première fois. « Moi, raconte le blond, je ne reste jamais longtemps nulle part parce qu'on me déloge. Il paraît que je dérange. Je ne fais pourtant jamais rien de mal. Je suis là, paisible, immobile. Pourtant, au bout de quelques minutes, quelqu'un s'approche et me prie de partir. Des gens se sont plaints. J'entends ça 10 fois par jour. Tenez, hier, au parc, j'observais les pigeons. Eh bien, un type m'a demandé de libérer mon banc pour le confort des autres usagers. Quels usagers ? Le parc était désert. Hélas, protester était inutile. 5 minutes plus tard, le même ou un autre me presserait à nouveau de déguerpir. J'ai pris mon chapeau et au revoir. Soupir. À midi encore, j'ai déjeuné au restaurant. On m'a accueilli, installé et donné la carte. Mais au bout de 5 minutes, le serveur m'a suggéré de repartir à cause des plaintes. C'est comme ça, je gêne. On m'expulse. Bibliothèque, piscine, boutique. Parfois, j'aimerais savoir qui récrimine contre moi et qu'on vienne me le dire en face. Le roux prend alors la parole. Moi, c'est autre chose. Je suis invisible depuis 6 mois. C'est venu d'un coup. Le premier jour, ma femme ne m'a plus regardé, comme si j'étais absent. J'ai cru à un jeu érotique, mais non, j'avais disparu. Elle ne me voyait plus, littéralement. Même chose au bureau, mes collègues ne m'ont plus adressé le moindre mot. Ce n'était ni un canular, ni une caméra cachée. J'étais, je suis, exclu du monde. Je n'existe plus, du moins socialement. Un temps. Ce n'est pas sans avantage. Je peux entrer dans une boutique, me servir, partir sans payer, personne ne m'arrêtera. Quand la tête d'un passant ne me plaît pas, je lui colle une beigne, sans craindre la réplique. Le point noir, voyez-vous, c'est la solitude. Je n'ai personne à qui parler. Enfin, presque. Parfois, quelqu'un me repère. Vous, par exemple, aux yeux de qui mon invisibilité ne joue pas, sans que je sache pourquoi. Je suis content de pouvoir causer un peu. À cet instant, surgit le garçon de café. L'air embarrassé, il murmura quelques mots à l'oreille du blond et retourna derrière le comptoir. « Qu'est-ce que je vous disais ? Des gens se sont plaints. Adieu. » Le roux haussa les épaules, puis héla le garçon 10 fois en criant. Mais personne, à part moi, ne prenait garde à lui.
Voilà pour cette nouvelle qui s'intitule « Paria au pluriel », forcément, extrait de ce nouveau recueil de Bernard Querini, « Vie conjugale ». On a profité qu'il y en avait une particulièrement courte pour la faire entendre en entier. Jean-Christophe Briançon, alors on a parlé de Marcel Aimé, on a parlé de Monde Parallèle. Quel registre Bernard Quirini fait appel là?
J'ai un petit peu donné la réponse dans l'avis que j'avais sur ce livre, parce que bon, c'est un recueil de nouvelles qui n'ont en commun rien d'autre qu'un goût pour l'absurde. Donc on peut se dire que de cette façon-là, ça se raccroche à des nouvelles surréalistes, un petit peu l'équivalent littéraire de ce que pourrait être d'une certaine manière le chat de Philippe Geluck en BD. Vous voyez, on plonge comme ça très vite dans des univers à la fois très réalistes et en même temps qui s'avèrent au fil des mots et des pages glisser vers un surréalisme absurde qui est souvent assez drôle, très drôle.
Il y a quand même une occurrence plus fréquente que les autres, c'est celle de la vie littéraire. Étienne de Montetti, il y a quand même nombre des nouvelles qui sont consacrées à des écrivains, à des éditeurs, oui, à des préfaciers. Et puis toute la fin, je serais obligé d'en lire quelques-unes, hein, des dédicaces.
Il y a deux thèmes dominants. Il y a tout ce qui a trait à la condition de l'homme, effectivement, au bonheur, qui va être gâché par la nature, la vie en société, les chimères du monde moderne, la publicité ou que sais-je. Et donc, ça crée ce personnage un peu perdu qui est une sorte de double de Quirini. Et vraiment, la filiation avec Marcel Aimé est nette. Et l'autre, effectivement, c'est un regard très intelligent, très fin sur la vie littéraire et une forme de vanité au sens des choses vaines. Par exemple, cet universitaire qui va écrire des préfaces pour un auteur, en commençant par le célébrer parce qu'il estime que cet auteur est injustement méconnu et oublié, et au fur et à mesure que son succès viendra grâce à ce préfacier, le préfacier va le prendre en grippe et la préface va changer de ton jusqu'à devenir une sorte de détestation. Il y a donc toute une réflexion, parce qu'au fond, Quirini est une sorte de moraliste froid sur l'écriture, sur le monde littéraire, sur la préface, sur les dédicaces aussi, et avec une virtuosité incroyable, un sens de la variété qui est inouï et qui m'a beaucoup frappé. Moi, il n'y a pas deux nouvelles qui se ressemblent. Ça donne une lecture très très vive et très réjouissante pour le lecteur.
Oui, je donne la parole à Florent Georgesco en glissant une dédicace à Monsieur Pierre Ducholez, ce Proust intime, sujet sur lequel vous avez beaucoup écrit, jamais aussi bien. Amitié.
Oui. Non, mais c'est très juste ce que dit Étienne. Il faut dire que Quirini est un critique littéraire et un des plus acérés du moment, je trouve. Mais il faut dire aussi qu'il est professeur de droit dans une université, aux dernières nouvelles de Dijon, il me semble. Vous disiez aussi, Étienne, qu'il n'y a pas deux nouvelles qui se ressemblent. Il n'y a pas non plus deux Quirini qui se ressemblent, en quelque sorte. Il a, en effet, un des charmes de son œuvre et une de ses grandes singularités, c'est cette impossibilité d'y trouver une unité. Et vous avez rappelé que l'un de nous, à propos de son dernier livre, disait à chaque fois qu'on tourne une page, on est surpris.
Laurent disait ça.
C'est vrai, à chaque fois qu'on ouvre un nouveau livre de Quirini, on est surpris. Il y a une sorte d'instabilité chronique chez ce garçon qui est le plus grand talent qu'on puisse imaginer quand on est dans le registre qui est le sien, que vous avez tous approché très bien. On ne peut que l'approcher. Vous avez évidemment raison de parler de Marcel Aimé, mais enfin c'est un Marcel Aimé qui ne s'interdit pas de devenir un Borges par moment.
C'est le surréalisme belge, moi, que je loue toujours chez Bernard Quirini, c'est-à-dire le surréalisme drôle là.
Aussi, oui, mais ces types d'inventions sont de nature très différente. En effet, il y a ce moraliste, mais un moraliste qui est si acéré qu'il voit l'espèce de folie sociale derrière les comportements, et qu'à partir de cela, il invente des mondes, cette nouvelle hilarante, et qui, je crois, est une sorte de défouloir pour tous les critiques littéraires autour de cette table, de celui qui finit par se venger de l'auteur qu'il a tant défendu et admiré. Il finit par créer une sorte de personnage assez... Enfin, il gonfle ces personnages jusqu'à une sorte de folie et jusqu'à les faire entrer dans un autre monde. C'est un créateur de monde assez inouï. Certaines nouvelles sont très troublantes. Tout est souvent sur un ton assez léger, en tout cas très distancié. Il n'y a pas y a jamais la moindre trace pour le coup de lyrisme chez Quirini. Tout est à froid. On ne sait pas quelles sont ses intentions. On ne sait pas ce qu'il cherche à faire. Dans une interview que j'avais faite de lui, il me disait je pose des questions auxquelles il est important que je ne réponde pas. Ce qui définit assez bien son style, au fond. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il va parfois extrêmement loin dans l'invention troublante. Il y a aussi du pot des contes dans l'étrangeté. Il y a deux nouvelles sur la mort, par exemple, là, où il invente tout bonnement deux manières nouvelles de mourir, qui devraient être étudiées. Où une sorte de force magnétique apparaît. Nous avions lu juste avant une nouvelle qui pouvait être sur un ton badin. Il y a quelque chose comme ça chez lui, une sorte de légère moquerie de la condition humaine. Là, tout à coup, on est au cœur de cette condition humaine et on entre dans un monde très proche d'une autre et par là très angoissant. Il y a cette sorte d'énigme permanente, ces questions auxquelles il ne répond jamais, créent aussi une tension secrète, discrète dans ces textes. Comme une inquiétude sur une sorte de secret sur lequel tout reposerait, qui ouvre une dimension sombre et très puissante, je trouve, en plus de tout.
Il y a même une misanthropie, parce qu'en réalité, beaucoup, beaucoup de ces nouvelles, par rapport à une sorte d'injonction contemporaine à s'aimer, à aimer les autres, tournent à la misanthropie et à la cruauté. Je pense à ces marionnettes qui deviennent cruelles et qui s'attaquent aux êtres humains. Il y a un regard très acéré et c'est passionnant. Effectivement, on est dans une sorte de fantastique assez virtuose, mais qui traduit sur la condition humaine quand même une conception un peu pessimiste.
Oui, mais même oui sur la condition humaine et sur sur une sorte de profonde force destructrice dans les choses à laquelle il atteint parfois de manière extrêmement surprenante et sans avoir l'air d'y toucher, ce qui fait partie vraiment de sa force littéraire.
Mais il y a des choses aussi plus encourageantes, on pourrait dire. Il y a quand même pas que de.
Ah oui. Il y a des. Vous avez été encouragé.
Vie conjugale. Je me suis demandé pourquoi cette nouvelle-là donnait son titre au recueil. On pourrait dire que c'est quand même une vision. Pas si négative que
une
cela.
Vie
une vie plutôt agréable. Je vais rien divulgâcher parce que sinon c'est pas drôle. Mais on peut, aimer la même femme toute sa vie. On pourrait dire que c'est la morale de cette histoire. Mais évidemment, je la tords là pour la rendre incompréhensible aux auditeurs et auditeurs qui ne l'ont pas encore lu.
C'est vrai, une belle nouvelle sur l'amour absolu.
On pourrait dire ça comme ça. Donc c'est pas forcément. Mais il y a tous ces remerciements. J'en cite encore un pour le plaisir. À Thomas, cette comédie familiale qui m'a été inspirée par ton roman. Elle met en scène un couillon qui te ressemble, jaloux du succès de son père écrivain, dont il n'égale pas le talent. Signé ton père, bien évidemment. Il y a quand même des choses extrêmement drôles sur cet écrivain qui a commencé, cet auteur, penseur qui a commencé dans le marxisme avant d'être le chant du libéralisme et qui ne sait plus où il en est, donc il s'en excuse à son lecteur par avance parce qu'il est complètement perdu. On peut reconnaître aussi beaucoup de monde dans ces pages.
Il a l'art de la brièveté de manière géniale. On peut penser à Fénéon par moment. Il y a une nouvelle en une phrase.
Une phrase.
Juste ce remerciement qui est une nouvelle en soi à l'inventeur du dictaphone, appareil génial, grâce auquel j'ai pu dicter la fin de ce livre après l'accident qui m'a coûté l'usage de mes mains.
C'est parfait. C'est Vie conjugale de Bernard Quirini, publié chez Rivage. Et nous allons conclure cette émission avec le jeu de la dispute et Joséphine Dumoulin qui nous a rejoint comme chaque soir pour nous rappeler la question du jeu d'hier au soir, nous donner sa réponse dans un premier temps.
La question était pour laquelle de ses œuvres Briante Mendoza a-t-il été accusé de servir le régime du président philippin actuellement au pouvoir et la réponse était la série Amo.
Ce soir, nous faisons gagner des invitations pour l'exposition Pompéi, un récit oublié. C'est une exposition qu'on peut voir au Musée de la Romanité à Nîmes jusqu'au 6 octobre. Quelle est la question ?
Quel homme de lettres romain est mort alors qu'il observait l'éruption du Vésuve ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucide Como, Boris Pino et Joséphine Dumoulin, prise de son Élise Le, réalisation Alexandre Fougeron. Demain, 19h, dispute cinéma en direct en public du Bel Air, le bar de la maison de la radio. Je serai avec Lucile Como, Muriel Joudet et Charlotte Garçon. À notre affiche, L'Époque de Mathieu Barrère, Seul à mon mariage de Martha Bergman, La Camarista de Lila Avilés. Et puis, un coup de cœur de Charlotte Garçon pour Rencontre, texte réuni par Émile Breton, des entretiens entre Luce Vigo et des cinéastes.